Bonsoir, bonsoir. Nous sommes à... Vous êtes à... Pardon, problème technique. À la courte échelle, comme tous les dimanches, de 19h à 20h, émission anticarcérale contre les prisons et tous les lieux d'enfermement. Je vous donne tout d'abord le numéro de l'antenne pour nous appeler. Vous pouvez nous appeler en direct. C'est le 04 91 08 28 10. 04 91 08 28 10. Vous pouvez nous écrire si vous avez envie de nous écrire. Nous sommes à la friche de la Belle de Mai, c'est au 3, c'est ça, rue François Simone 13003, Marseille. Donc je répète, vous pouvez nous écrire au 12 rue François Simone, la friche de la Belle de Mai, 13003 Marseille. Et vous pouvez nous écrire des mails aussi à la-courte-échelle@reza.net. Et voilà, donc moi c'est Jou. Après on a Charlie.
Coucou.
On a Gaïa.
Ciao.
Et ce soir, on a une personne qui est avec nous, c'est une pote, Asia.
Salut.
Salut, bienvenue. Asia, c'est une pote qui a été plusieurs fois en Palestine. Donc voilà, spoiler de ce qu'on va parler, dont on va parler ce soir. Et qui a pu rencontrer et interviewer, entre autres, plusieurs prisonnières palestiniennes incarcérées par l'entité sioniste colonisatrice. Donc on avait envie de faire une petite discussion avec elle pour qu'elle puisse un peu nous raconter... voilà, parler de ses interviews et parler un peu du système carcéral et de la résistance du peuple palestinien. Donc, ça vous va si on commence la discussion? Voilà. Donc, Asia, on peut commencer un peu en général. Si tu veux un peu nous parler de qu'est-ce que c'est, un peu parler en général du système carcéral israélien et c'est ce qu'il représente.
Oui. Donc, comme dans beaucoup de situations coloniales, le système carcéral israélien a un rôle central dans la domination et dans le contrôle et dans la gestion coloniale de la population palestinienne. Et en même temps, a eu un rôle central dans la construction des résistances des Palestiniens et des Palestiniennes depuis les prisons. Le système carcéral israélien, c'est un peu, ça s'est créé un peu en continuité avec le système créé par le colonialisme britannique. Et du coup, toutes les prisons israéliennes vont être construites là où il y avait déjà des prisons construites par le colonialisme britannique quand il occupait la Palestine. Et aussi, va utiliser des lois qui étaient déjà utilisées au moment du colonialisme britannique, comme par exemple la loi de la détention administrative, qui permet de garder quelqu'un en prison sans chef d'inculpation, sans aucune inculpation pour une période et donc pour une période de 3 mois, et qui est une période qui est renouvelée qui peut être renouvelée de façon indéfinie tous les 3 mois. Et donc il y a des prisonniers qui sont restés 7 ans, 8 ans en prison avec une peine qui était renouvelée tous les 6 mois. Et donc, beaucoup de prisonniers et des prisonnières disaient que c'était un peu une des pires conditions, parce que si tu es condamné, par exemple, à 10 ans, d'une certaine façon, tu le sais, tu commences à prévoir ta vie en prison, alors que quand tu es en détention administrative, tous les 6 mois, tout est préparé à sortir, ta famille, ton village se prépare à t'accueillir, et très souvent... Vraiment, aux portes de la prison, les matons vont te dire, en fait, non, tu restes en prison. Donc, le système carcéral israélien a utilisé beaucoup de lois pour juger les Palestiniens, en créant, du coup, un système de disparité légale sur base ethnique, parce que, du coup, tous les Palestiniens, même les Palestiniens qui sont citoyens de ce qui est maintenant l'État colonial d'Israël, sont jugés par une cour militaire, où du coup le procureur, les juges, c'est tous des militaires, et où le taux de culpabilité des Palestiniens est plus ou moins 89,9%. Et alors que tous les Israéliens juifs, qu'ils soient des colons, bon, ils sont tous des colons, mais qui soient dans les colonies, sur les territoires, sur les, en Cisjordanie ou en ce qui maintenant est Israël, sont tous jugés par une cour civile. Et du coup, le système carcéral israélien n'est pas simplement un lieu de punition et de répression, mais c'est vraiment un laboratoire où sont testées tout un tas de techniques, de pratiques de répression anti-insurrectionnelle qui sont testées sur les Palestiniens et qui sont un peu après revendues en Occident et d'un plan d'autres régimes autoritaires. Et l'objectif des prisons, en Palestine, mais comme ailleurs, c'est vraiment d'extraire les Palestiniens de leur propre société, de les transformer en êtres dociles et de détruire toutes ces velléités anticoloniales et ces envies de résistance. Et c'est un laboratoire de répression où... par exemple, tout ce qui est testé sur les Palestiniens, il va être après revendu lors des salons de l'armement dans différentes situations. Et par exemple, Salah Hamouri, qui est un prisonnier palestinien avec la citoyenneté française, qui a été expulsé de Palestine suite à son emprisonnement, il racontait qu'un jour, il s'était réveillé dans une prison à Megiddo, en Israël, et qu'il n'y avait plus aucun maton, et donc il avait demandé ils étaient où, et en fait ils étaient en train de faire un cours de formation pour les matons des Baumettes. Et donc ça montre comment toutes ces techniques répressives sont testées sur les Palestiniens, et puis circulent et sont réutilisées dans différents pays, dont la France.
Je peux te faire une question. Donc, ouais. Du coup, les matons israéliens étaient allés faire un cours de formation pour le maton de Baumette ?
Oui.
Ah, ok.
Oui, c'était eux qui faisaient un cours de formation, donc je ne connais pas les contenus, mais sur comment, j'imagine, parce que souvent, ils font des cours de formation justement sur comment réprimer quand il y a des révoltes au sein des prisons. Donc j'imagine que ça portait plus sur ça, mais du coup c'était eux qui allaient enseigner aux matons des Baumettes comment réagir. Et en général, les prisons sont aussi un lieu dans lequel qui sont utilisés aussi pour recruter des collaborateurs, dans le sens où vu que beaucoup de personnes peuvent se retrouver en prison sans aucune chef d'inculpation, ils vont essayer lors des interrogatoires de mettre pression sur eux en leur promettant de les faire sortir en échange d'informations. Et c'est aussi un lieu dans lequel ils essayent, à travers les informations qu'ils vont arriver à extorquer dans les interrogatoires, par exemple des informations même qui peuvent paraître anodines, ils vont les utiliser pour créer une espèce de carte de la population palestinienne de Cisjordanie et du coup avoir vraiment plein d'informations sur tous les gens des différents villages, d'où vient la personne arrêtée. Et aussi, le système carcéral israélien ne se base pas forcément sur... Enfin, ça se base sur le régime de la preuve. Ça veut dire que ça suffit que quelqu'un avoue ou quelqu'un dise qu'il t'a vu faire quelque chose et tu peux être en prison sur la base de ça, sur la base de quelqu'un d'autre qui te balance. Et ça, et donc souvent... ces aveux ou en tout cas ces dénonciations sont extorquées à travers la torture qui, d'une certaine façon, est légalisée en Israël. Ça l'était déjà avant le 7 octobre parce que même si la Cour suprême avait dit que la torture n'était pas très bien, il disait que quand même ça laissait la place aux officiers qui faisaient l'interrogatoire de juger si finalement elle était quand même un peu nécessaire. Du coup, elle était déjà avant le 7 octobre légalisée et après le 7 octobre, c'est devenu... c'est devenu même revendiqué. Et comme dans beaucoup des situations de colonialisme, à la fois le système carcéral, c'est un lieu de répression et c'est aussi un laboratoire de répression, mais ça a été aussi transformé par le mouvement des prisonniers et des prisonnières palestiniennes ont un laboratoire révolutionnaire, ont un laboratoire de résistance à travers du coup, l'organisation et les luttes du mouvement des prisonniers et des prisonnières.
Et merci pour cette introduction. Moi, il y avait un truc sur lequel je voulais rebondir. Du coup, ce lien entre la prison et la colonialité. Et effectivement, tu parles de laboratoire et j'ai l'impression que c'est un truc qui colle aussi avec, dans des contextes différents, mais aussi avec la gestion dans les empires au 19e siècle et même dans la gestion aujourd'hui des prisons, de vraiment créer des prisons dans des lieux isolés et souvent aussi dans des endroits colonisés. Et ce que fait aussi la France avec, par exemple, le CRA à Mayotte ou avec le, maintenant avec les, nouveaux, les nouvelles prisons qui sont prévues par le gouvernement français depuis quelques années. Ça parle aussi de réouvrir des anciennes prisons coloniales comme... Enfin, Darmanin, il a beaucoup parlé de ça aussi ces dernières années. Du coup, comment vraiment la prison fait partie aussi de, d'une forme de contrôle de certaines populations.
Oui, et par exemple, au niveau de, du coup, de, aussi des géographies coloniales et des géographies carcérales, les prisons en Israël, elles ont toutes été, à partir des années 2000, elles ont été toutes déplacées sur territoire israélien, enfin sur ce qui est maintenant territoire israélien. Ce qui du coup oblige, enfin a eu un impact très fort sur les visites parce que du coup tous les proches, enfin déjà c'est que les proches du premier degré, donc les mères, le père, les enfants, les frères et sœurs qui peuvent rendre visite. Et en fait depuis les années 2000, pour pouvoir rendre visite, du coup tu dois aller en territoire israélien, donc tu dois demander un permis pour pouvoir y aller. Et ces permis est souvent pas donné pour des raisons de sécurité, notamment quand tu as des membres de la famille qui sont impliqués dans des actions contre ce qui est défini la sécurité de l'État d'Israël. Donc c'est un peu un cercle vicieux qui crée des situations d'isolement très fort chez les prisonniers et les prisonnières, surtout que avant les années 2000, il y avait ces formes de solidarité, des réseaux des familles et des proches qui allaient s'organiser, qui du coup allaient faire des tournées, des visites quand les proches d'un prisonnier ne pouvaient pas aller le voir. Bah, c'était la mère de quelqu'un d'autre qui allait le voir, parce que comme beaucoup de mères disaient, tous les prisonniers c'est mes enfants. Et à partir des années 2000, c'est plus possible. Donc il y a, même avant le 7 octobre, pendant des années, les prisonniers de Gaza n'ont reçu aucune visite. Et pareil, les femmes prisonnières, vu que les visites c'est souvent une question des femmes pour plein de raisons, à la fois... des répartitions des rôles des genres, mais aussi parce que les femmes avaient plus de possibilités d'obtenir le permis de visite. Beaucoup de femmes, elles-mêmes prisonnières, n'ont pas reçu, ont reçu peu de visites pendant très longtemps. Et donc justement, pendant très longtemps, un des seuls moyens de briser l'isolement, ça a été la radio en Palestine, parce qu'il y a une émission là-bas aussi qui s'appelle Sotil Asra, que ça veut dire la voix des prisonniers. C'est vraiment une émission radio dédiée, c'est presque une chaîne dédiée que aux prisonniers et aux prisonnières, où il y a un peu comme un parloir libre et à d'autres émissions où il y a des dédicaces aux prisonniers, des émissions anticarcérales. Il y a des prisonniers et des prisonnières qui, du coup, ou des familles des prisonniers qui font des dédicaces, qui prennent la parole et qui parfois transmettent aussi des messages secrets aux prisonniers à travers la radio. Je sais pas pourquoi je parlais de ça.
Mais là, ça existe toujours.
Là, alors la radio existe toujours, mais depuis le 7 octobre, toutes les radios ont été confisquées et donc il y a plus. Avant, il y avait, enfin à un moment donné, il y a eu des, enfin quand ça a commencé, il y avait des postes radio qui étaient introduits clandestinement. Et du coup, il y avait beaucoup de prises. Enfin, ils connaissaient l'endroit où ça captait. Du coup, puis il y a eu des luttes, des grèves qui ont permis l'obtention des radios. Et donc, il y avait vraiment, c'était vraiment un peu des rendez-vous hebdomadaires quand ils savaient que la famille d'un tel prisonnier, d'une telle prisonnière allait parler. Tout le monde se réunissait. Ils allaient trouver la cellule où ça captait mieux, et donc les prisonniers qui devaient écouter le mieux allaient être transférés, enfin allaient essayer de rendre visite à cette cellule-là. C'était vraiment aussi une expérience collective, aussi parce qu'il y avait, enfin à la fois parfois par exemple, les prisonnières en 2011, quand il y a eu l'échange entre un prisonnier israélien, Gilad Shalit, et 1027 prisonniers et prisonnières palestiniennes, les femmes l'ont su à travers la radio. L'on suit à travers la radio parce que la mère d'une des prisonnières, à travers plein de jeux de mots, a transmis ce message. Et par exemple, quand les prisonnières ont organisé clandestinement le passage du bac et surtout une licence clandestine en prison, mais qui était reconnue par les ministères de l'éducation dehors, une prisonnière que je connaissais très bien appelait à la radio pour donner les notes qu'elles avaient reçues, en disant par exemple à une prisonnière, je t'aime 28, toi je t'aime 25 et demi. Et c'était comme ça qu'elles savaient les notes qu'elles avaient prises, et du coup elles pouvaient continuer leur éducation clandestine en prison.
Est-ce que tu aurais envie de nous parler de comment les prisonniers et prisonnières palestiniens ont résisté?
Oui. Du coup, en fait, vraiment, depuis les débuts, les prisonniers et les prisonnières palestiniens ont compris que la prison devait était un autre front de lutte, notamment un des fronts de lutte où tu étais constamment face aux colonisateurs, face à l'ennemi, et il y avait un affrontement direct. Et donc, ils ont commencé à s'organiser à partir des années 70. J'ai oublié de dire qu'en fait, depuis 1948, il y a plus d'un million des Palestiniens et Palestiniennes qui sont passés par les prisons israéliennes, ce qui veut dire à peu près les 40% de la population masculine a connu la prison. Et que donc, vraiment, en Palestine, dans chaque famille, il y a minimum un prisonnier. Donc, la prison, c'est vraiment quelque chose qui fait partie du quotidien, de l'imaginaire, qui est au centre des luttes palestiniennes et de la résistance palestinienne. Et donc, à partir des années 70, suite à l'occupation israélienne de Jérusalem, de la Cisjordanie et de Gaza en 1967, les prisonniers commencent à être plus nombreux et commencent à s'organiser en prison. Et les premières luttes, comme est souvent le cas, s'organisent autour des conditions matérielles. Les prisonniers et les prisonnières commencent à s'organiser pour protester à la fois à travers des formes de grèves de la faim, le refus de sortir en promenade et parfois, selon aussi la configuration des prisons, à travers des affrontements directs avec les matons, commencent à exiger à la fois des matelas, des couvertures. Tout ce qui a été obtenu par les prisonniers, ça a été obtenu au prix des luttes très dures. Et toujours les premières demandes, c'était aussi des livres, des cahiers, des stylos. Parce que pendant très longtemps, il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas de stylos. Et le premier livre qui a été écrit en prison dans les années 70, c'était écrit sur l'emballage de la margarine, en utilisant l'emballage de la margarine comme page et en utilisant le seul crayon que les prisonniers avaient réussi à voler à un maton et qui se faisait passer de cellule en cellule. Et puis, ce livre est sorti à travers une visite familiale et puis a été réimprimé. Donc ça, c'était le premier livre écrit en prison. Et donc, à travers différentes formes de lutte plus ou moins dures, les prisonniers commencent à obtenir les premières les matelas, les couvertures, etc. Et commencent aussi à se structurer en mouvement assez institutionnalisé, dont l'objectif, c'était vraiment de construire une espèce de situation, des structures de contre-pouvoir où tu ne vas jamais t'adresser à l'administration pénitentiaire pour ne jamais lui laisser la possibilité de te diviser. Et du coup, c'est une organisation extrêmement collective où les prisonniers s'organisent en comité. Il y avait le comité, par exemple, il y avait le comité d'accueil qui était le comité qui était responsable d'accueillir du coup les prisonniers et la prisonnière qui sortaient après des semaines et des semaines d'interrogatoire. Et donc, il y avait à la fois toute une dynamique de care et aussi à la fois le fait d'expliquer les règles des prisons, comment ça marche, d'accueillir la personne. Il y avait un armoire collectif dans lequel tous les prisonniers et les prisonnières mettaient les habits pour les nouveaux arrivés. Et il y avait après le comité, par exemple, le comité culturel, qui était justement le comité qui était responsable d'organiser les activités culturelles en prison, qui pouvaient être à la fois des spectacles, des formes d'arpentage, des lectures collectives, mais aussi vraiment un système d'éducation qui allait de l'alphabétisation jusqu'à un niveau de master. Et tout ça, c'était organisé clandestinement. Mais donc, c'était tous les prisonniers et les prisonnières qui rentraient en prison en alphabet en sortaient alphabétisés. Et il y a pas mal de prisonniers, notamment ceux qui sont restés pendant 30 ans en prison, qui sont rentrés en prison en étant analphabet et qui ont obtenu leur master et voire certains pour certains leur doctorat clandestinement en prison en discutant leur dissertation de mémoire par téléphone clandestinement avec l'université de Bir Zeit par exemple ou avec d'autres universités. Et il y avait aussi un comité qui était le comité qui c'était un peu le tribunal interne qui gérait du coup les conflits entre les différents prisonniers, parfois entre les différentes factions, toujours dans cette idée de ne jamais s'adresser à l'administration pénitentiaire. Et puis il y avait vraiment des élections, une espèce de constitution, ça c'était principalement dans les années 80, où c'était un peu le moment d'apogée, enfin c'était les meilleurs moments un peu du mouvement des prisonniers, où ils étaient très, où le mouvement était très puissant, il y avait un lien très fort entre la lutte qui s'organisait dehors et la lutte qui s'organisait à l'intérieur. Mais du coup, il y avait ce tribunal qui gérait les situations internes. Et il y avait une constitution, il y avait une élection à la fois du représentant de la cellule, mais aussi du représentant de la prison, qui était le seul, ou la représentante pour les femmes, qui était le seul qui avait le droit de parler avec l'administration pénitentiaire, justement pour empêcher toute tentative d'individualisation. Et du coup, que l'administration pénitentiaire parle individuellement à des prisonniers ou à des prisonnières. Et du coup, l'idée, ça a toujours été vraiment de transformer la prison, que la prison ne soit pas le lieu où s'arrête la lutte, mais ça soit au contraire un lieu où la lutte s'élabore. Et aussi, paradoxalement, vu que dans les prisons, c'est un peu les seuls endroits dans lesquels ils peuvent se rencontrer des prisonniers, des prisonnières de Cisjordanie, de Gaza et aussi des territoires, des prisonniers des 48, donc des prisonniers qui viennent de ce qui est actuellement l'État d'Israël. C'est aussi, c'est aussi un peu un des seuls endroits où des personnes d'origine très différentes, des classes très différentes se rencontrent, enfin en Palestine, à différence que dans d'autres pays. Et du coup, pour beaucoup, la société qui s'est créée dans la prison, c'est aussi un modèle pour la société palestinienne après la libération. C'est aussi un moment dans lequel c'est aussi la possibilité de se rencontrer, de découvrir aussi comment les prisonniers qui sont, enfin les Palestiniens qui habitent côte à côte avec l'occupant en Israël résistent, de comment à Gaza ils résistaient. Enfin, et donc c'est vraiment un partage à la fois de mémoire des luttes et aussi des choses très très simples où à partir d'un endroit de répression très très étroit, paradoxalement l'imaginaire de la Palestine devient plus grand et que du coup aussi l'imaginaire des libérations devient plus possible paradoxalement depuis la prison.
Ouais. Merci, j'aurais 1000 questions et un truc avant que tu continues aussi avec les choses que tu as envie de dire, mais si tu as envie d'expliquer un peu du coup cette communication intérieure-extérieure qui j'ai l'impression est très importante, du coup elle se fait que par des moyens clandestins, c'est ça, et s'il y a une évolution aussi dans ce contact dedans-dehors et comment des moments de lutte se font en parallèle à l'intérieur et à l'extérieur de la prison.
Où il y a toujours eu un peu une porosité entre le dedans et le dehors en Palestine, parce que beaucoup de personnes ont fait plusieurs séjours en prison, et du coup il y a eu plusieurs allers-retours, mais aussi parce qu'en effet, par exemple, la première intifada en 1987, la plupart des leaders de la première intifada venaient de sortir des prisons. Donc c'était vraiment... c'était vraiment assez clair comment toute une formation aussi politique, mais aussi des luttes, mais aussi des prises de décision, comme je venais de dire, au sein de la prison, a été aussi un peu un modèle pour la lutte dehors au moment de l'intifada et du coup du soulèvement palestinien. C'était principalement des moyens clandestins. En effet, il y avait la radio, il y avait à la fois les avocats. En fait, les avocats en Palestine, pas tous, mais les avocats en Palestine jouent souvent un rôle très important, mais qui n'a rien à voir avec la justice. Justement, vu que il y a très peu de prisonniers qui reconnaissent la légitimité, enfin, il n'y a aucun prisonnier, mais en tout cas, qui reconnaissent la légitimité de la cour israélienne, souvent, le rôle des avocats, c'est plutôt vraiment à la fois un rôle pour transmettre les informations, pour, parfois, c'était eux qui allaient prendre les examens que les prisonniers et les prisonnières avaient faits et les transmettre au comité qui allait les évaluer dans les universités. C'était aussi notamment après le 7 octobre, alors qu'il n'y a plus aucune visite qui est permise, les avocats, c'est les seuls qui, après plusieurs mois, ont pu rendre visite aux prisonniers. Et du coup, leur rôle, encore une fois, c'est à la fois donner des informations aux prisonniers sur leur famille, si elles sont toujours vivantes ou pas, s'ils ont été déplacés, notamment en ce qui concerne les prisonniers de Gaza, mais aussi d'une certaine façon alimenter le soumoud des Palestiniens qui résistent, parce que c'est les seuls contact avec l'extérieur qu'ils ont. Donc, les avocats ont joué, enfin, jouent un rôle qui n'est pas exactement le même rôle qu'ils peuvent jouer ailleurs. Et aussi leur, comment dire, leur complicité avec le système est très différente parce qu'ils sont palestiniens et que du coup se retrouvent à devoir défendre dans une cour coloniale des prisonniers d'où ils savent déjà quelle va être la condamnation et le destin. Et après, il y a aussi d'autres formes de circulation des informations. Il y avait pas mal de communiqués de la première intifada qui sortaient même des prisons à travers des systèmes clandestins, qui étaient en vrai les mêmes systèmes clandestins qui ont permis de faire sortir du sperme des prisons et donc de faire des enfants entre des prisonniers qui font sortir le sperme parfois dans des emballages de bonbons. Et puis, ils font l'insémination artificielle. Donc, il y a eu plusieurs enfants des prisonniers qui sont nés comme ça, dont l'enfant de Walid Daq, qui est un prisonnier qui est mort de négligence médicale après 43 ans en prison. C'était un intellectuel qui a produit beaucoup de savoir sur et contre la prison depuis la prison. Et donc, tout ça circule à la fois... vraiment aussi des communiqués des luttes, mais aussi des textes, des analyses, des réflexions. Quand en 2006, il y a eu la division entre le Hamas et le Fatah, et du coup, il y a eu l'autorité palestinienne et le Fatah en Cisjordanie et le Hamas qui a été élu de façon légitime à Gaza, le mouvement des prisonniers a écrit un texte qui appelait justement à une unité, qui mettait en avant cette identité des prisonniers politiques, des luttes contre la colonisation, plutôt que les divisions selon les différents partis. Du coup, le lien, enfin comment dire, et même maintenant, même après les accords d'Oslo, qui étaient des accords qui s'évolaient, des accords de paix, mais qui ont été des accords qui ont ouvert les portes à la colonisation et qui ont transformé aussi la lutte palestinienne d'un projet révolutionnaire à un projet un peu proto-étatique, libéral, avec plein d'ONG qui commencent à arriver en Palestine, même dans cette situation-là, où du coup il y a un niveau des luttes qui s'est transformé, la question des prisonniers et des prisonnières, c'est toujours la question, avec la question de Jérusalem, capitale de la Palestine, qui mobilise encore et jusqu'à aujourd'hui la population palestinienne, qui les fait descendre dans la rue et qui porte aussi, c'est un peu l'avant-garde révolutionnaire et anticoloniale palestinienne. Voilà.
Ok. Ouais. Merci fort. Est-ce qu'on fait une pause musicale? Ça vous fait?
Grave.
Du coup, on va mettre Inan d'abord et ça...
Chab Jadid.
Oui, merci.
Tu peux nous dire... ça parle de quoi cette chanson, parce que tu nous as dit avant, c'est vite fait, si t'as envie.
Celle de Chab Jadid, c'est un rappeur palestinien de Kfar Aqab. Kfar Aqab, c'est un quartier qui était un quartier de Jérusalem et qui était séparé par les murs, du coup c'est plus Jérusalem. Et ce sont des jeunes de Cisjordanie qui habitent un peu c'est un peu les banlieues de Jérusalem et qui racontent à la fois de l'armée qui arrive, de eux, comment ils la repoussent, comment ils résistent, et voilà.
Ça marche.
اهدى ما هو كل شي باين في المحنة الله بيشهد مين احنا رجالة ضمن طرطش لك بمبر حرب الليلة ما بنغلب بدك جبال وعادي من هدلك مرحب فيك في ولاد القدس من دبر حالنا محل اللغز رنيت على نفحة وكل بخش وقت شفنا وياما وكله بصف ولا مرة نخاف ولا مرة ونص بدك بركان بنفقع بوف نعمل لك حفلة تخش تنط نستقطب مال بس بدنا نقص ما هو كله عارف ما هو كله شايف ما هو كله خايف والدنيا ترص استجدع دايما وعك بوحش انا ادرينالين فاجع بشباب ينضرب بالغاز احنا مع كاش ما الدنيا صعيبة وبدها سلام سيبك من روح وحضر لك جاي تنسيش انا زي النوس لح فتك في بغز رجال تحفر انفق ترجع بشويل ومالين اشلاء بلقين 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 بالقدعني انا فاتح دكين من بعش هلسيت والدم مسموح بس للسباع مكتوب على القرمة قسم لو غيد احنا جن منطلع ما بتشوفناش ودموع ما تسيل اذا في الشمس نحن الشجعين ان قد اينا اوين وبوم بخ وطن بيع مزين وفي بس عب صوت وسوليد والشيل حط كل اطرح بمكين حطيت من الرعب من الارض نطلع زي جن بخ هدي اللعب على الاذى نترك على النار الافكار تنبخ اخ تراب ورا حدا اذا بلغ انا مش مركب بركبش مع حدا انا فن ان امكانيك البلد في البقلك ديك بين رعوة غنم انا جيت انا ديك طلعت تحلم نحكي حكيكة دقيقة نفهم فيش وقتها بضيع شباش حفيدي بديك في فلاشة ما تشرح حميم انا يوم بحتاجك اجيك نعمل بلقان بطريقة طليق تفصيل على حدا العدل شو جديد انا جيك بالدور بالطور بالعرض وماكين عريض وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باعه اختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سر برنفط ورادار هلساب على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول واو ان قد اينا اوين وبوم بخ وطني بيع مزين وفي بس عب صوت وسوليد والشيل حط كل اطرح بمكينه ان قد اينا اوين وبوم بخ وطني بيع مزين وفي بس عب صوت وسوليد والشيل حط كل اطرح بمكينه
Et salut, on est toujours sur la courte échelle. Ce soir, radio anti-carcérale avec Asia qui est venue pour l'émission. Et est-ce que tu aurais envie de nous dire qu'est-ce qui a changé après le 7 octobre pour la suite ?
Oui, alors, du coup, vu que une des demandes de l'opération Toufan al-Aqsa qui a eu lieu le 7 octobre était la libération de tous les prisonniers avec des échanges avec des prisonniers israéliens, ce qui a été aussi un peu assez constant dans l'histoire palestinienne. Il y a eu souvent le premier échange a eu lieu je pense en 79, mais du coup toute l'histoire de la résistance palestinienne et de la prison et des prisonniers palestiniens a été ponctuée par des moments où les Palestiniens, la résistance palestinienne a obtenu des formes de libération à travers des échanges. En plus des tentatives d'évasion, certaines réussies, certaines moins, qui ont aussi traversé l'histoire du mouvement des prisonniers palestiniens. Et donc, vu qu'une des demandes principales de cette opération Toufan al-Aqsa avait été la libération des prisonniers, dès les premières heures qui ont suivi le 7 octobre, les prisons se sont transformées en un lieu de vengeance et en un des sites principaux dans lesquels se déploient les pratiques génocidaires israéliennes. Donc, dès le 7 octobre, il y a eu un passage à tabac de tous les prisonniers et les prisonnières. Les leaders ont été isolés, du coup ceux qui avaient été élus comme représentants et représentantes des prisonniers et des prisonnières ont été isolés et transférés dans d'autres prisons. Tout ce qui avait été obtenu à travers des luttes a été confisqué. Donc, comme je le disais, il n'y a plus de radio, plus de télévision, plus de livres, plus de plaques pour faire cuire. Et même plus de matelas, plus de couvertures, plus d'habits. Pendant plusieurs mois, notamment les femmes avaient un habit qui, du coup, elles devaient laver et remettre humide. Pareil pour les sous-vêtements. Et puis, il y a eu des passages à tabac, des formes des viols, des menaces des viols collectifs, des viols, on a vu aussi exercés à travers des chiens qui ont été entraînés à violer des prisonniers. Et toutes ces mesures qui n'ont pas commencé le 7 octobre, mais qui sont liées au système colonial carcéral israélien et qui avaient déjà été préconisées par Ben Gvir, le ministre israélien suprématiste juif qui était devenu responsable des prisons et qui avait déjà prévu ces et toutes ces dispositions avant le 7 octobre, bah, toutes ces formes de torture qui avaient déjà été testées avant ont évidemment sont augmentées après le 7 octobre. L'objectif de l'objectif encore plus de la prison en ces moments est vraiment de transformer les prisonniers en êtres qui ne peuvent pas penser à autre chose qu'à comment survivre et qui du coup n'ont plus aucune capacité de s'organiser parce qu'ils vont juste penser à comment ne pas mourir pour les prochaines heures. Et c'est aussi essayer de casser tout ce qui est collectif, tout ce qui est une organisation collective. Donc il n'y a plus aucune représentante et aucun représentant des prisonniers. C'est interdit de parler au nom du collectif. Tu peux parler que en ton propre nom. Si tu dis non, tu es tabassé. Les prisonniers hommes, à différence des femmes qui ont toujours été beaucoup moins et qui se sont toujours organisées de façon plus transversale, les prisonniers hommes, ils avaient obtenu la possibilité de se répartir selon leur appartenance aux différents partis dans les différentes sections. Et depuis le 7 octobre, cette répartition a été détruite et au contraire, ils font exprès de mettre ensemble ceux qui se ressemblent le moins en essayant de créer des tensions internes entre les prisonniers. Et il n'y a plus toutes les formes d'éducation clandestine, formelle et informelle qui existaient n'existent plus parce que tous les livres ont été confisqués, tous les stylos, les cahiers. Et il y a des formes. Et dès qu'ils trouvent un stylo, tu es mis en isolement ou tu es battu. Et donc il y a vraiment, enfin l'objectif c'est aussi de faire peur, c'est aussi d'installer une forme de peur dans la société palestinienne pour que les gens se paralysent et qui du coup ne fassent plus rien parce qu'ils ont peur d'aller en prison. Et c'est justement pour lutter contre ça que notamment des jeunes prisonnières que j'avais rencontrées lors de mon dernier séjour en Palestine et qui avaient été en prison aussi après le 7 octobre et qui du coup décident de transmettre des récits de résistance. Malgré tout ce qu'elles ont subi, malgré les tortures, les fouilles à nu, les formes d'harcèlement sexuel, le passage à tabac, décident de parler de comment le Soumoud et donc la résistance palestinienne résiste malgré tout et de comment il y a toujours des nouvelles formes qui vont s'adapter aux nouvelles conditions matérielles qui existent en prison. Et par exemple, pour citer quelques exemples, justement, le fait qu'il n'y ait plus aucun stylo, aucun papier, là, l'éducation se passe qu'à travers l'oral. Et comme disait une des prisonnières, les femmes palestiniennes ont aussi toute une tradition de transmission orale depuis même avant la Nakba, etc. Et donc, elles sont très douées dans ça. Et donc, par exemple, elles racontent de comment elles vont faire appel à leurs souvenirs universitaires, d'un côté, mais de l'autre côté, c'est aussi des vieilles femmes qui connaissent tous les chants traditionnels ou les histoires traditionnelles qui vont les raconter. À partir du moment où le seul livre qui est autorisé, c'est le Coran, elles vont s'asseoir, elles vont chercher les sourates du Coran, par exemple la sourate al-Harb, je crois que c'est la sourate al-Harb, qui part de la guerre et donc qui part d'un ennemi, pour en se basant sur le texte du Coran et en parlant par métaphore, etc., pour parler de l'affrontement avec l'ennemi, en faisant semblant aux matons qui les écoutent que c'est juste une lecture religieuse sur le Coran. Par exemple, toutes celles qui connaissent des langues vont continuer à les enseigner. Elles disaient, depuis qu'il n'y a plus de stylos et plus de papier, elles avaient très peu aussi des produits pour se laver. Elles n'avaient pas de serviettes hygiéniques qui ont été confisquées depuis le début. À un moment donné, elles se disaient, en fait, on va assumer des puées et on va utiliser le savon pour écrire. Donc le savon, elles utilisaient un bout très dur de savon pour écrire sur les murs, à la fois des communiqués, à la fois des cours, à la fois juste des phrases, des poèmes, des envies de s'exprimer. Et aussi bah, des formes de résistance qui existent, c'est de comment, malgré tout, malgré le fait que... comment à la fois les prisonniers et les prisonnières, entre un passage à tabac et l'autre, elles s'assoient, elles imaginent, mais vraiment dans les détails les plus concrets, la forme qu'allait prendre la Palestine libre à partir des noms des rues, des écoles, des transports, et de comment justement le fait d'être mis avec des personnes qui sont très différentes d'eux, et qui pourrait, ou d'elle, et qui pourrait créer des tensions, malgré le fait que des tensions, évidemment, existent, mais du coup, c'est pris comme un modèle pour imaginer la forme des sociétés qui pourraient prendre en Palestine quand la Palestine sera libre, parce que c'est avec ces gens-là qu'ils doivent faire, c'est avec ces gens-là qu'ils doivent se libérer, et que du coup, le fait d'avoir accès à des personnes qu'ils ne rencontreraient jamais en dehors des prisons parce qu'ils ne les rassemblent pas, ça leur permet de se dire je vais apprendre à les connaître, à lutter ensemble, à avancer ensemble, parce que c'est ensemble qu'on va libérer la Palestine. Et tout ça dans le contexte de l'enfer que sont les prisons israéliennes après le 7 octobre. Et pareil, il y a beaucoup de prisonnières qui disaient, notamment des femmes, qui disaient qu'il faudrait que tout le monde devienne une chercheuse en prison. Et qui du coup... elles étudient tous les détails de la répression qui est utilisée contre elles, parce qu'il y a toujours, toutes les techniques répressives, toutes les techniques, tous les détails de leur quotidien en prison, pour pouvoir comprendre quel est le but derrière et pour pouvoir le retourner contre les colons et contre les matons. Et ça, cette idée, c'est ce qu'elles appellent beaucoup une forme de connaissance libératrice. Du coup, ce qui te permet d'affronter et de lutter, des connaissances, des savoirs qui te permettent d'affronter et de lutter. Et par exemple, ces savoirs, ce sont des savoirs qui ont été développés, là je parle un peu plus des femmes, mais qui ont eu un impact aussi sur les hommes. Ce sont des savoirs, par exemple, développés par les femmes comment résister aux formes de torture sexuelle qu'elles subissent en prison. Et parce que depuis le début, depuis le début de l'occupation, il y a eu un lien entre la colonisation et les viols, parce que la terre palestinienne, tout comme les corps des femmes et des hommes, comme on a vu après le 7 octobre, était considérée comme quelque chose de violable par les Israéliens. Et du coup, le corps de la femme représentait aussi pour eux la métaphore de la terre. Et donc, depuis le début aussi, ils ont utilisé des formes de torture basées sur le genre, notamment contre les femmes palestiniennes, aussi en s'appuyant sur une vision culturaliste, raciste, islamophobe et orientaliste des femmes palestiniennes. Et donc, en essayant de faire attente à leur honneur, entre guillemets, pour humilier à la fois elles-mêmes, leur famille et toute la société palestinienne. Et du coup, les premières générations des femmes palestiniennes ont subi des viols en prison. Et ça, pendant un certain moment, a participé ou... On subit des viols, il y avait des menaces de viols, il y avait aussi toute une pratique qui s'appelait Iskat, qui était le fait de faire des photomontages de ces femmes qui couchent avec des soldats et les menacer de les diffuser auprès de leur communauté. Et donc ça, pendant un certain moment, et selon l'époque, les partis, la réaction de la famille, a participé à stigmatiser parfois la femme palestinienne, la femme prisonnière palestinienne dans la société palestinienne quand elle retournait. Mais il y a eu tout un travail des femmes des différents partis depuis le début, justement, de mettre en récit ces formes de torture subies. Aisha Oud, c'est une des premières femmes qui a subi un viol en prison. Et 20 ans après, elle a écrit son autobiographie dans laquelle elle raconte dans tout le détail ce qu'elle a subi. Mais tout leur travail, le travail de ces femmes qui faisaient à la fois des conférences publiques, faisaient des tournées dans les écoles, c'était justement de revendiquer leur corps aussi violé, leur corps meurtri, comme un corps résistant, et de dissocier la notion de l'honneur au corps de la femme, mais justement de l'associer au corps de la femme qui résiste. Et c'est ce que disait Lina Ma'ari, une chercheuse palestinienne, racontait comment les prisonnières palestiniennes, en résistant contre ces formes de torture, à la fois les rendent moins efficaces et à la fois participent à changer l'idée de l'honneur et du corps de la femme dans la société palestinienne, et les rendre moins efficaces parce qu'il y a plein d'anecdotes de résistance à ces formes de torture qui circulent. Par exemple, il y a cette anecdote qu'elle raconte toujours de quand une vieille femme palestinienne de Jérusalem a été arrêtée pour mettre pression sur son fils. Et donc, quand elle était transférée à la prison, une autre femme lui a dit « Fais attention, ils vont te menacer de viol, il faut que tu fasses semblant de ne pas avoir peur. » Et elle, elle avait jamais été en prison, elle savait pas de quoi elle parlait, c'était une femme très religieuse. Et du coup, face au soldat qui avait 25 ans et qui va la menacer de viol, elle le regarde, elle ouvre son abaya, elle dit « Viens, viens, si t'es un vrai homme, viens. » Et du coup, ça, pour montrer justement qu'elle avait pas peur, et du coup, le soldat, il s'est arrêté et il est parti. Et donc, c'est aussi montrer que, enfin, il y a plein de techniques qu'elle circule et qui est tout un travail de conscientisation qui est fait dans les prisons et en dehors des prisons pour essayer de résister à ces formes de torture. Par exemple, une autre femme a raconté de toute la question liée au tabou des règles et qui du coup de comment, après beaucoup de lectures, après aussi avoir justement lu et discuté publiquement les témoignages, les récits des tortures d'autres femmes prisonnières, quand elle a affronté sa fouille à nu, elle avait complètement reconstruit, redéfini ce qu'elle subissait. Elle se disait, est-ce que c'est moi qui suis humiliée alors que lui, le gars, son travail, c'est de toucher mon sang menstruel et c'est son travail. Moi, je suis là et c'est une cause qui me porte. Du coup, où est l'humiliation? Qui est-ce qui doit se sentir humilié? Et c'est justement ce qui... toutes ces techniques qui permettent aussi de redéfinir ce qu'elles subissent, ça permet aussi de pouvoir le résister. Ça, évidemment, ça ne le rend pas moins violent, ça ne le rend pas moins dur, mais ça permet de le retourner contre celui qui est en train de le pratiquer. Il y a aussi justement toute cette notion du corps collectif palestinien qui d'où les prisonniers et les prisonnières puisent la force. Et c'est ce que, du coup, comme je disais, Aïcha Aoud, quand elle parle de son viol, elle le définit en termes collectifs. Elle dit « Mon corps, elle arrêtait d'être un corps de femme face à un corps d'homme, mais c'était le corps de tous les Arabes, c'était le corps de tous les dominés qui luttaient contre l'injustice et qui devaient résister. » Et pareil, du coup, il y a vraiment beaucoup de prisonnières qui disaient « Quand tu comprends que ton corps, c'est pas visé en tant que corps individuel, mais en tant que cause, tu puises toute ta force de ceux qui t'ont précédé et de ceux qui vont te suivre. » Et du coup, quand tu es en isolement, qui est censé être le moment où tu es brisée et tu es toute seule, il y en avait plein qui allaient rechercher les traces de leurs proches, de leurs amis qui avaient signé sur les murs. Et du coup, elles les imaginaient là-bas avec eux. Et du coup, elles puisaient la force d'eux. Elle disait, Yara, une prisonnière, disait j'ai retrouvé un vers d'un poème qu'avait écrit mon pote et j'ai imaginé à côté de moi danser la dabque parce qu'il me disait que lui, en isolement, il dansait la dabque. Et du coup, j'ai fait la même chose. Et c'est vraiment comment tu puises cette force de tous ceux qui t'ont précédé, de tous ceux qui vont te suivre jusqu'à la libération. Et ce sont des formes de résistance qui existent, qui s'élaborent en prison et qui se transmettent, tout comme les occupants et les méchants se transmettent leur forme de répression. Il y a justement toutes ces formes de résistance et ce récit de résistance qui vont briser les murs, qui vont circuler et que du coup l'objectif aussi d'en parler aujourd'hui ici, c'est que justement qu'ils circulent un peu partout et qu'ils brisent tous les murs de toutes les prisons. Voilà.
Merci pour tout ce qui nous raconte, tout ce que tout nous raconte. C'est force et courage à toutes les prisonnières et prisonniers. Et vive la lutte de résistance. Et voilà. Voilà, on veut continuer avec une petite question. Tu veux nous parler de quelque chose d'autre? On va mettre une petite musique. Comment on fait On a envie de parler d'autre chose. En tout cas, c'était vraiment très fort. Et voilà, on te remercie pour toute. Les témoignages et toutes les personnes, j'imagine, qui ont participé aujourd'hui, disons, en donnant leur témoignage et comment ils résistent à cette occupation et ce système carcéral qui s'est affreux et s'est devenu plus terrible donc après le 7 octobre.
Ouais, enfin, je sais pas, dans tout ce que tu as raconté, il y a un truc qui me touche beaucoup, c'est que, en fait, il y a cette idée que ce qui se passe en prison, ça fait vraiment partie de ce qui se passe dehors. Et c'est aussi une manière de construire un autre monde. Et ça me fait penser au rapport qu'il y a à la prison dans nos sociétés. Enfin, évidemment, c'est un contexte complètement différent. Mais d'imaginer la prison comme un moment où la vie s'arrête, où on cache des trucs, alors qu'en fait, ça fait partie de la vie. Et de le considérer comme ça, moi, ça me fait un truc d'imaginer plus facilement qu'à un moment, on va... bah, la prison va cesser d'exister parce que c'est plus un truc qu'on met de côté, mais en fait c'est un truc qui est au centre de nos vies et de nos luttes. Et que ouais, en fait, libérer les prisonniers, ça veut dire aussi libérer une société entière. Et c'est pas stigmatiser ou mettre de côté, mais au contraire de donner un sens politique à l'emprisonnement de tout le monde.
Tu disais aussi que, ouais, j'ai rebondi un petit peu aussi, que au cœur de tout la lutte pour la Palestine, c'est la libération de tous les prisonniers. Donc ça va vraiment avec tout ça. Donc du coup, c'est quelque chose dont on pourrait penser aussi dans nos sociétés de façon vraiment très différente, parce que voilà, c'est pas le même contexte bien sûr, mais voilà, de penser à la libération de tous les prisonnières et prisonniers comme une société. Bon, différent quoi.
Grave. Et je sais pas si t'as envie de parler d'un truc, enfin je sais pas, des campagnes ou des moyens de lutte qu'on peut avoir ici en France ou en Europe sur la question des prisonnières palestiniennes ou sur la question des viols et tout. Enfin déjà, grand merci d'en parler même à une semaine. Enfin après, on s'en fout des dates, mais je trouve ça important de le rappeler, vu que dans une semaine c'est le 8 mars et qu'on parle beaucoup d'un féminisme anticarcéral. Je pense que, enfin en tout cas moi, depuis qu'il y a eu ce truc de parler des violences qui sont faites dans les prisons israéliennes, je trouve que ce serait hyper important de aussi faire un point de revendication en tant que féministe anticarcérale. Du coup, merci d'avoir parlé de ça.
Oui, il y a une campagne qui s'organise, enfin il y a une campagne qui s'appelle Dismantle Damon, qui est une campagne qui existe, qui est internationale et qui a comme objectif de mettre vraiment en valeur la parole et les témoignages des prisonnières. Il y a des livrets qui, du coup, des traductions des textes écrits par des anciennes prisonnières depuis et après la prison. Et après, oui, enfin notamment, enfin toute à la fois la, enfin comment dire, toute la dimension des viols et des tortures qui subissent les femmes palestiniennes, je pense qu'elle est très importante, enfin qu'il y a eu quand même un silence, les femmes et les hommes palestiniens, parce qu'il y a eu un silence assez coupable aussi de tout, enfin même dans nos milieux, j'ai l'impression, de tous les mouvements, les collectifs aussi féministes et institutionnels et moins institutionnels, qui ont tout de suite après le 7 octobre dénoncé les formes de violences qui ont subi les femmes israéliennes, ou en tout cas, et qu'il y a eu une silenciation totale vis-à-vis de tout ce qu'ils ont subi, les hommes et les femmes palestiniennes, qui est depuis le 7 octobre même raconté de ce qu'elles subissaient, qui ça n'a jamais été écouté. Après des mois et des années, il y a eu des instances internationales comme Amnesty, l'ONU, qui en ont parlé, qui ont fait des rapports, et c'est ça aussi qui est problématique, que leur voix soit validée que quand elle est validée par des institutions plus importantes. Mais là aussi, il n'y a pas eu des réactions, alors que vraiment les récits, et c'est aussi, pour le coup, bon ça c'est une parenthèse, mais c'est aussi grâce au travail probablement fait par les femmes palestiniennes que des hommes palestiniens ont aussi pu prendre la parole, ont pris aussi la parole publiquement, en vidéo, pour dénoncer les viols qu'ils ont subis, des viols collectifs, des viols avec des chiens, etc. Et qu'encore une fois, cela n'a pas, il n'y a pas eu des réactions à la hauteur. Et qu'en même temps, bah, et ça je recite Lina Mehari, mais qu'il est important justement, enfin à la fois de ne pas minimiser de ne pas reproduire une espèce de dichotomie où le prisonnier et la prisonnière sont soit des héros, soit des victimes, dans le sens où tout ce qu'ils subissent, c'est quelque chose qui les rend victimes des violences coloniales et des violences sexuelles. Et en même temps, le fait de ne pas vouloir se réduire à ce rôle de victime et de ne pas vouloir être assigné que à un rôle de victime, les prisonniers et les prisonnières vont résister à travers aussi leur corps contre toutes ces formes des tortures, et que du coup, les prisonniers et les prisonnières en Palestine, mais ailleurs, peuvent être à la fois victimes et résistants ensemble, sans qu'il y ait cette dichotomie. Mais du coup, c'est important que nous, en tout cas, dans notre place, on puisse dénoncer ce qu'ils subissent, et on puisse accompagner et amplifier leur lutte, qui puisse aussi inspirer des luttes ailleurs, quoi.
Merci. Et on se quitte avec un son.
Ouais, carrément. On peut passer du coup ce son que tu nous as conseillé de Dame Resalem
Inzinzana. Ça veut dire une lettre depuis la cellule. Et c'est un son qui est sorti en 2011 en soutien à la grève de la faim des prisonniers, qui raconte l'histoire d'un prisonnier, d'un jeune homme qui écrit à sa femme, qui écrit à sa mère qui est en prison. Et puis, du coup, il écrit sa lettre à sa mère prisonnière. Et puis, lui aussi, bah, comme souvent ça arrive en Palestine, il sera lui aussi prisonnier.
Ok. Merci beaucoup d'être venu. T'es la bienvenue quand tu veux à l'émission.
Merci.
Grave. Merci.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Force à tout le monde.
Ciao.
خايفين اطير لا تاجل الفرح بحكي للصوره بحكيكي طريق صوره.